Bonjour à tous, je suis Malorie Kerjouan, pneumologue à Rennes. Je remercie vivement les organisateurs de m'avoir invitée à venir parler des maladies kystiques pulmonaires et en particulier Romain. Alors le sujet est vaste. On va commencer par définir ce qu'est un kyste pulmonaire parce que c'est la première étape. En scanner, c'est une image de densité aérique entourée d'une paroi. Donc on a une interface visible avec le poumon adjacent. Et la paroi est fine, elle fait moins de 3 mm. En anapath, il s'agit d'une cavité aérique entourée de cellules fibreuses ou épithéliales. Il y a de nombreux mécanismes possibles. Le mécanisme de valve anti-retour, entraînant une expansion des voies aériennes, une dégradation du parenchyme pulmonaire par des métalloprotéinases et possibilité de dilatation ischémique des petites voies aériennes du fait de l'obstruction ou de l'infiltration des capillaires qui irriguent les petites voies aériennes. Voici ici des scanners étiquetés emphysème, ce qui a conduit à une errance diagnostique de plusieurs années. Or, on peut visualiser la paroi qui, certes, est à la limite de la visibilité. La distinction avec l'emphysème centrolobulaire, qui est le diagnostic différentiel principal, n'est pas toujours facile. Ah, je n'ai plus le texte ici. Ouais, merci. Donc dans l'emphysème centrolobulaire, on a une destruction parenchymateuse qui est centrée sur l'artère. Les deux éléments qui peuvent faire la distinction avec le kyste sont l'absence de paroi, ce qui n'est pas si facile, surtout quand il y a une augmentation de la densité du parenchyme pulmonaire, par exemple par une bronchiolite du fumeur. Et le deuxième élément, c'est la présence de l'artère centrolobulaire, que l'on voit très bien ici au milieu de la lésion emphysémateuse. Commençons par un premier cas clinique. Une patiente de 49 ans, adressée pour un deuxième avis pour un asthme tardif, difficile à équilibrer, avec la notion d'emphysème sur le scanner thoracique. C'était une dame qui n'avait jamais fumé, qui avait un taux d'alpha-antitrypsine normal, donc déjà ça pouvait orienter vers le diagnostic différentiel de maladie kystique. Et on voit bien, quand on analyse le scanner thoracique, cette paroi très fine, donc interface avec le poumon adjacent, et pas d'artère centrolobulaire. Au plan fonctionnel, elle était très sévère avec un VMS à 61% de la théorique, une diffusion très altérée à 47%, une dame qui n'avait absolument aucun antécédent personnel ou familial. Et donc dans ce cas, devant l'aspect du scanner, que l'on va détailler secondairement, les deux examens clés à demander étaient le VEGFD, qui était élevé, supérieur à 800 picogrammes par millilitre, et l'imagerie abdominale, qui était normale. Ce qui avait permis de poser le diagnostic de lymphangiolégiomyomatose, ou LAM. Donc la LAM est une maladie rare qui atteint les poumons, les reins, le système lymphatique. C'est une pathologie quasiment exclusivement féminine, sauf dans les rares cas de sclérose tubéreuse de Bourneville, en période d'activité génitale. La prévalence est de 3 à 8 par million de femmes adultes. Il s'agit d'une prolifération de cellules musculaires lisses anormales, qu'on appelle des cellules LAM, qui vont entraîner une destruction kystique progressive des poumons, et elle est classée dans les néoplasmes de bas grade métastasion. On retrouve chez ces patientes des mutations sur TSC1 ou TSC2 qui vont entraîner une activation constitutive de la voie mTOR, donc voie impliquée dans la croissance et la prolifération cellulaire. Et donc on distingue deux types de LAM, les LAM sporadiques, où on aura des mutations somatiques dans les cellules LAM et donc pas constitutionnelles, et les LAM germinales associées à la sclérose tubéreuse de Bourneville avec donc une transmission autosomique dominante possible de ces mutations TSC1 ou TSC2. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, quand on a un tableau de LAM, regarder si la patiente a des signes de STB associés, puisque la STB est tout de même nettement moins rare que la LAM en général, 1 sur 6000 naissances. Importance de l'interrogatoire, car on trouvera très fréquemment dans la famille ou chez le patient des signes neurologiques, épilepsie, retard mental, des tumeurs rénales, cardiaques. L'avis dermatologique devant toute maladie kystique doit être assez systématique, à mon avis. On orientera le patient vers un bilan ophtalmo et surtout la génétique au moindre doute. Voici ici, par exemple, quelques lésions qui peuvent nous orienter. Donc ça, c'est une revue assez récente concernant la sclérose tubéreuse pour le pneumologue, qui est très bien faite. Et donc, on peut voir des plaques en peau de chagrin, des angiofibromes de la face, des ongles, et puis très souvent donc, les angiomyolipomes dont on va parler tout à l'heure. Donc là, ce sont les critères de la STB qui sont détaillés dans le PNDS-LAM. La clinique de la LAM, donc ces patientes se présentent avec des pneumothorax récidivants qui révèlent la maladie dans 40% des cas et que l'on retrouve chez 70% des patientes, 75% de risque de récidive. Les dames se présentent avec une dyspnée progressivement croissante, 20% de risque de chylothorax, possibilité de lymphangiolégiomyome dans le médiastin ou le rétropéritoine. Elles présentent souvent une toux, parfois des chyloptysies, acides chyleuses, et puis des signes en rapport avec une éventuelle sclérose tubéreuse de Bourneville associée. L'analyse du scanner thoracique est vraiment l'élément clé du diagnostic. Les kystes sont multiples et toujours présents, généralement très profus, quasiment jamais inférieurs à 10. Ils ont des parois très fines, souvent à peine visibles, inférieures à 2 mm. Ils sont généralement très bien arrondis, avec des contours bien définis. Leur taille peut varier de 2 mm à 30 mm et ils sont généralement assez homogènes. La distribution est aléatoire et bilatérale, donc ça c'est très important pour le diagnostic différentiel, il n'y a pas de prédominance de territoire et généralement pas d'autres lésions élémentaires associées, sauf dans l'exceptionnel cas d'hyperplasie micronodulaire multifocale pneumocytaire que l'on retrouve dans la STB et qui sont des nodules en verre dépoli qui peuvent être associés aux lésions là, mais c'est uniquement dans la STB. Les autres éléments qui nous orienteront sur le scanner thoracique, ce sont des lymphangiomes kystiques, des adénopathies chyleuses et les chylothorax. Donc voici ici des scanners de patientes atteintes de lymphangiole et d'hémiomyomatose qu'on suit dans le service et avec des collègues présents dans la salle. Donc on voit très bien les multiples lésions kystiques à parois très fines, parfois à la limite de la visibilité, donc parfaitement bien arrondies, assez homogènes et vraiment aucune prédominance de territoire. La distribution est tout à fait aléatoire. Ici aussi, une autre patiente qui a une forme extrêmement sévère. Là encore, vous voyez, un autre cas, une autre présentation avec un lymphangiome kystique médiastinal, un peu de chylothorax et un lymphangiome rétropéritonéal. Une autre patiente récemment diagnostiquée. Les kystes sont vraiment de toute petite taille par rapport aux autres patientes et la présentation était celle de chylothorax extrêmement abondant. Voilà, vous pouvez aussi, là je vous ai montré des scanners de patientes quasi au stade d'insuffisance respiratoire, mais vous avez aussi des formes moins profuses qui sont possibles. Dans le bilan complémentaire, il faudra regarder l'imagerie abdominale, qui est un élément clé du diagnostic quand on retrouve des angiomyolipomes, donc ces tumeurs graisseuses, qu'on retrouve dans près de 50% des cas de lames sporadiques et 90% des cas des lames associées au STB. Il y a un risque hémorragique qui peut être inaugural, le traitement et l'embolisation. L'IRM cérébral n'est pas systématique, on la proposera en cas d'antécédent de prise de macroprogestatif, ce qui était proposé à une époque pour rechercher des méningiomes, et puis pour rechercher des arguments pour une STB, on peut avoir des tumeurs astrocytaires, des nodules sous-épandimères. Donc voilà des scanners d'angiomyolipomes, donc on remarque très bien même en tant que pneumologue, hein, on peut les retrouver, donc ces tumeurs à fort composant graisseux. Donc l'imagerie initiale c'est plutôt le scanner et puis ensuite le suivi peut se faire en IRM ou échographie. Au plan fonctionnel, les patientes ont un trou ventilateur obstructif de sévérité variable, une distension thoracique, une diminution de la DLCO, fréquemment une réversibilité, ce qui peut parfois donc faire penser au diagnostic d'asthme. Dans les séries tant américaines que chinoises, on observe une baisse d'en moyenne de 90 ml du VEMS par an en période d'activité génitale, donc ce qui est important par rapport au déclin fonctionnel physiologique. Et donc il y a une forte différence entre le statut pré- et post-ménopausique du fait de l'influence hormonale. Dans la série américaine, 118 millilitres avant la ménopause, 74% après la ménopause. Ce qui a depuis maintenant plusieurs années révolutionné le diagnostic et permet de surseoir à la biopsie pulmonaire chirurgicale, c'est le dosage du VEGFD, qui est un ligand des récepteurs OVEGF 3 et 4, impliqué fortement dans la lymphangiogénèse. Et donc, on a mis en évidence sur des séries prospectives, validation aussi sur des séries rétrospectives, que ce marqueur est extrêmement spécifique au seuil de 800 picogrammes par millilitre, avec en revanche une sensibilité assez faible. Hein, donc un VEGFD normal n'exclut absolument pas le diagnostic de l'âme. Au seuil de 600, on récupère en sensibilité, 73%, mais on est un peu moins spécifique. L'histologie qui désormais est rarement nécessaire, mais elle est à faire évidemment. S'il y a une chirurgie pleurale, on en profitera pour prendre un petit bout de poumon. Eh bien, on va retrouver ces cellules musculaires lisses le long des voies lymphatiques qui expriment de façon très spécifique un marqueur mélanocytaire qui est HMB45, des marqueurs musculaires comme l'actine et hormonaux dans 50% des cas, récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Donc, les critères diagnostiques de l'âme, désormais, dans les recommandations internationales depuis 2016, intègrent le VEGFD. Et donc, dans le PNDS, voici les critères diagnostiques. Donc, premier critère, c'est le scanner. Hein, donc, c'est vraiment l'élément clé, comme je vous disais. Plus angiomyolipome rénal, lymphangioléiomyome, taux élevé de VEGFD. Donc, c'est soit, hein, c'est, il ne faut pas tous ces éléments, c'est au moins un. Pleurésie, donc chylothorax, contexte de STB ou histologie. Et donc ce graphique est vraiment bien fait pour la démarche diagnostique. Si vous suspectez une lame au plan scanographique, donc si le scanner n'est pas caractéristique, on arrête là, on envisage un autre diagnostic. Si on a une STB, on est sûr que c'est une lame. Et si on a les critères que je viens de vous détailler, on est sûr que c'est une lame. Si on n'a pas ces critères, mais que le scanner est vraiment très évocateur, que la patiente n'est pas très sévère, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'a pas les critères de traitement médicamenteux, à ce moment-là, on peut se permettre une surveillance clinique et ne pas aller à la biopsie pulmonaire chirurgicale. Si la patiente est très sévère et a les critères d'inhibiteur de mTOR, on va en parler, eh bien, il faudra proposer une biopsie pulmonaire chirurgicale. Mais c'est finalement assez rare. Le pronostic des patients dans la série américaine, mais qui date un peu, retrouve des survies chez des patientes non greffées à 5, 10, 15 et 20 ans, de l'ordre de 94, 85, 75 et 64%. La survie était corrélée au VEMS, la DLCO et à la découverte au statut pré- ou post-ménopausique, puisque l'évolution, comme on l'a vu, est nettement moins importante après la ménopause. Dans cette étude chinoise plus récente, les facteurs associés positivement à la progression étaient le fait d'avoir un scanner avec beaucoup de lésions kystiques, un VEGFD élevé, donc c'est un marqueur pronostique et prédictif de réponse au traitement aussi, le VEMS bas, et les facteurs positifs, enfin, entraînant moins de progression, étaient le fait de prendre du sirolimus, d'avoir des enjumes lipomes et d'être ménopausé. En termes d'association à la mortalité, on retrouvait les mêmes critères, à savoir un VEGFD élevé et un VEMS bas. Quelles sont les mesures thérapeutiques générales dans la lame? Donc, comme pour toutes les insuffisances respiratoires, traitement inhalé selon les EFR, la réadaptation respiratoire, extrêmement importante, la prévention, évidemment pas de tabac, activité physique, maintien d'un poids normal, les vaccinations, grippe, SARS-CoV, pneumocoque, les œstrogènes sous toutes leurs formes sont contre-indiqués. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc comme, quand on a un doute diagnostique, il faut aussi pour la contraception dire aux dames, bah, voilà, plutôt des progestatifs, des microprogestatifs. Dépistage de l'ostéoporose dont la prévalence est importante. Éducation par rapport au risque de pneumothorax. Il faut envoyer les patientes vers les associations de patientes. La flamme est très active dans la région, puisque le président est le mari d'une de mes patientes qui habite à Plouhinec. Donc voilà, l'association est vraiment très active, très dynamique, et puis déclarer le cas dans le registre national relance. Le traitement spécifique de la lame, la pleurodèse, elle doit être proposée, contrairement à la prise en charge d'un PSP standard, dès le premier épisode, compte tenu du risque très élevé de récidive, hein, je vous ai dit 75%. Elle doit être faite par un chirurgien expérimenté, on n'est pas dans l'urgence. Si une patiente fait un pneumothorax, on peut la drainer et l'envoyer vers un centre avec un chirurgien qui voilà, aura l'habitude. Il faut éviter les pleurectomies ou le talcage compte tenu du risque possible de transplantation à l'avenir avec le risque hémorragique que ça engendre. Voilà, donc on draine et on transfère vers un centre expérimenté. Les traitements par doxycycline ou traitements hormonaux, comme ça a été le cas à une époque, il y a même eu des chirurgies d'ovariectomie, ne sont absolument plus recommandés. Et en revanche, on va avoir les inhibiteurs de mTOR. Donc ça repose sur le fait qu'il y a une activation de la voie mTOR. Et donc dès 2010, il y a eu cette publication dans le New England. Les patientes étaient randomisées entre donc les patientes avec un VEMS inférieur à 70%. Elles avaient autour de 45 ans, 48% de VEMS, 43% de DLCO. Donc randomisation pendant un an, sirolimus VS placebo. Et donc on voit très bien sur la courbe, pendant la phase de traitement, une stabilité, voire une amélioration du VEMS dans le bras sirolimus par rapport au bras placebo. Mais ce n'est qu'un traitement suspensif, car à l'arrêt du traitement, le déclin du VEMS suit le déclin du bras placebo. Donc c'était valable pour le VEMS et la CVF. Et dans les critères secondaires, il y avait également la qualité de vie qui était significativement améliorée dans le bras traitement par sirolimus. En pratique, on le proposera aux patientes qui ont un VEMS inférieur à 70%, mais évidemment, une patiente de 25 ans qu'on découvre avec un VEMS à 75% doit également être mise sous sirolimus. Si on a un déclin supraphysiologique, même si le VEMS reste élevé, et une DLCO très basse, on peut aussi le discuter. Donc la prescription initiale doit être faite dans un centre de compétences ou au moins après avis d'un centre de compétences. Les effets indésirables sont globalement assez gérables, hein, ce sont des aphtes, des diarrhées, des troubles biologiques comme hypokaliémie ou dyslipidémie. Donc c'est un traitement qui globalement est bien toléré. Il est efficace sur la fonction, mais également sur les manifestations lymphatiques. Et puis, bien sûr, chez les patients qui auront une insuffisance respiratoire, eh bien, le traitement, c'est la greffe pulmonaire, avec des bonnes survies, meilleures survies que dans les autres indications, à 1, 5 et 10 ans, de 94, 73 et 56%. Ce sont globalement des patients qui ont très peu de comorbidités, en fait. Voilà, si vous voulez plus d'informations, parce que j'ai dû me réduire un peu, vous avez le PNDS-LAM publié en 2021. Deuxième cas clinique, ça va aller un petit peu plus vite, un patient de 42 ans, antécédent de pneumothorax en 2010, symphysé, pneumothorax en 2018, symphysé, et donc là, on me demande mon avis pour ces pneumothorax à répétition. À l'interrogatoire déjà, eh bien, plusieurs pneumothorax chez sa mère non fumeuse, donc ça doit alerter, et puis ablation d'une lésion dermatologique, on m'a juste dit que c'était bénin. Et cliniquement, on retrouvait donc ces papules blanchâtres, millimétriques, au niveau des pommettes, extrêmement évocatrices de fibrofolliculome. Ça a été confirmé par l'ANAPAT. Sur le scanner thoracique, quelques petites lésions kystiques, principalement dans les bases. Et vous voyez de morphologie assez caractéristique du diagnostic, hein, oblongue ou lentiforme, et vraiment prédominante dans les bases. On n'avait pas de lésions dans les sommets. Voilà, donc l'histologie de la lésion cutanée. Et ça nous avait fait penser au Birtok Dubé, et ça a été confirmé par l'analyse génétique FLCN. Donc le Birtok Dubé, c'est une maladie génétique rare, de transmission autosomique dominante, prévalence 1 sur 200 000 naissances. Une étude récente là, a peut-être fait dire que ce serait peut-être plus fréquent que ça. Mutation du gène FLCN, plus de 200 mutations connues avec une prévalence très élevée, une expressivité assez variable selon les familles. FLCN, c'est un suppresseur de tumeurs qui code pour la folliculine. Et en cas de variant FLCN, on va également avoir une activation de la voie mTOR, donc prolifération, survie cellulaire. L'atteinte, donc il y a une triade. Les kystes pulmonaires, les anomalies cutanées et risque de cancer du rein. Les kystes pulmonaires sont quasiment présents chez tous les patients. Classiquement, ils sont assez peu nombreux, moins de 20, moins de 30% du parenchyme pulmonaire, et ils sont localisés vraiment volontiers dans les bases. Ils sont sous-pleuraux, paramédiastinaux et très souvent asymétriques, donc lentiformes et multilobés quand ils sont volumineux. Ils progressent rarement en taille, en nombre dans le temps, et en histologie, on n'a pas de marqueur très spécifique en fait. Donc voilà des exemples. Donc pour une fois, on voyait une lésion sur une radio, mais c'est vraiment assez exceptionnel. Donc là, vous avez hein, donc des kystes dans les bases, pas tout à fait arrondis, et puis surtout bilobés pour celui-ci. Là, la localisation moulée dans les îles est vraiment très évocatrice aussi de Birtok Dubé. Voilà, donc toujours au niveau paramédiastinal, plutôt dans les régions inférieures, et c'est vraiment le caractère lentiforme qui doit faire évoquer le diagnostic. Là, pour la petite histoire, c'est un patient Randy Osler que j'ai suivi, et puis en fait, avec une histoire de pneumothorax dans la famille, et en revoyant le scanner, mise en évidence des lésions kystiques, et bah, le pauvre, il cumule Randy Osler et Birtok Dubé, mais il va quand même très bien. Et là, je vous ai mis un scanner d'une patiente qui, elle, a une atteinte beaucoup plus sévère. Donc peut-être un peu moins évocateur le scanner, sauf qu'on a quand même le caractère lentiforme des kystes et le caractère multilobé, comme je vous le disais, qui prédomine quand même dans les régions inférieures. Donc les kystes occasionnent un risque de pneumothorax très important également. Ce sont des pneumothorax qui sont volontiers récidivants, plus de 3 épisodes par patient. Et certaines études quand même suspectent le BHD d'être causal des pneumothorax dits idiopathiques dans 5 à 10% des cas. Donc même si les recommandations françaises disent de ne pas faire de scanner thoracique au premier épisode, c'est vrai qu'on le fait quand même assez largement chez nous. Et dans les recos tout récemment publiés par les collègues de génétique, ils disent de penser au BHD dès un premier épisode de pneumothorax spontané primaire ou en cas de kyste des bases. Les EFR sont très souvent normales, en dehors parfois d'une discrète diminution de la DLCO, mais bon, elles sont en général normales. L'évolution vers l'insuffisance respiratoire est très rare. Donc comme le montre cette étude française, étude rétrospective, multicentrique, donc vous voyez, il y avait donc 52% d'hommes, 50% de fumeurs, 95% des patients avaient des kystes, mais bon, c'était une série pulmonaire. Une présentation clinique, c'est souvent, les patients sont souvent asymptomatiques, hein, à part les pneumothorax. Donc beaucoup de pneumothorax, et puis des fonctions tout à fait préservées, avec un VEMS à 97% et une DLCO à 85%. Très peu d'évolution de la fonction dans le temps chez ces patients, ce qu'on observe en pratique. Les autres atteintes donc, qui peuvent nous orienter, qui doivent nous orienter, ce sont les fameux fibrofolliculomes qui sont pathognomoniques du BHD. Donc encore une fois, il faut vraiment avoir l'avis dermatologique large dès qu'on a une maladie kystique. Et puis ce qui fait toute l'importance de diagnostiquer la maladie, finalement, les kystes, il n'y a pas de prise en charge spécifique, c'est la prédisposition au cancer du rein, puisque 30% de ces patients vont faire un cancer du rein dans leur vie. Donc c'est tout l'intérêt du diagnostic, parce que ça va amener une surveillance spécifique du cancer du rein. Donc voilà les critères diagnostiques, mais qui reprennent manifestations pulmonaires cutanées rénales. Et donc la prise en charge, donc elle est spécifique. Hein, au niveau pneumologique, on éduque le patient par rapport au risque de pneumothorax. Le cas échéant, s'infiche dès le premier épisode compte tenu du risque élevé de récidive. Pas de suivi fonctionnel ou scanographique défini. Au niveau rénal, imagerie annuelle, plutôt alternance écho-IRM. Et au niveau dermatologique, la prise en charge est uniquement esthétique. Troisième cas clinique, un jeune patient de 22 ans qui avait été hospitalisé pour une myocardite virale avec une dyspnée importante dans ce contexte. Et puis, c'était un jeune qui fumait et qui consommait beaucoup de drogues. Donc, il avait eu un scanner thoracique dans ce contexte. Et donc, le scanner était très beau, très évocateur du diagnostic avec la classique triade nodule plein, kyste à paroi épaisse et kyste à paroi fine, avec une nette prédominance dans les régions supérieures. Vous voyez une épargne quasi complète des bases. Le lavage broncho-alvéolaire retrouvait un taux de cellules CD1 un peu élevé à 4% et surtout mise en évidence d'une mutation BRAF V600E, ce qui avait permis de poser le diagnostic d'histiocytose à cellules de Langerhans. Donc, l'histiocytose à cellules de Langerhans, elle est désormais classée dans les néoplasies myéloïdes inflammatoires, entraînant une infiltration tissulaire par des histiocytes. Elle peut concerner tous les âges. Donc moi, j'assiste parfois au RCP histiocytose, donc ce sont surtout des hématologues de l'enfant, donc des choses hyper compliquées. Donc les enfants présentent volontiers des formes multisystémiques, et puis nous, pneumologues, on voit plutôt des patients qui ont des histiocytoses pulmonaires limitées, fortement liées au tabagisme. Mais on peut avoir des présentations cliniques extrêmement variables. Association à une mutation activatrice de la voie des MAP kinases dans quasi tous les cas, avec, vous voyez, 50% de mutations, donc ça fait plaisir à Romain, ça. 50% de mutations BRAF, surtout V600E, 30% de mutations de MEC, et puis on peut avoir d'autres mutations de la voie moins fréquemment, ce qui est très intéressant, évidemment, pour le diagnostic et en termes d'implication thérapeutique. Donc récemment, dans la classification des histiocytoses, mais comme je vous le disais, c'est surtout des recommandations qui ont été faites par des oncos et des hématos, donc on est un peu éloigné de la forme pulmonaire pure. Ils individualisent quand même la forme pulmonaire simple liée au tabagisme, mais l'atteinte peut donc être multisystémique. Donc là encore, il faut avoir des petites notions de dermato et surtout bien connaître un dermatologue, puisqu'on a souvent des lésions érythémato squameuses, surtout au niveau du scalp d'ailleurs, des lésions endocriniennes hypophysaires, post-hypophysaires avec le diabète insipide, fréquemment également des atteintes osseuses, des os longs ou plats, voûtes crâniennes, et puis des atteintes dentaires, mais ça peut toucher en fait tous les organes, comme je vous ai listé ici avec les examens à faire en fonction. Dans l'atteinte pulmonaire isolée que l'on voit, qui est d'ailleurs souvent fortuite, et puis maintenant avec le dépistage là, qui va arriver du cancer thoracique, vraiment on va avoir beaucoup plus de patients qui vont avoir des diagnostics de maladies kystiques. Donc nos patients, ce sont quasiment exclusivement des fumeurs, beaucoup d'hommes, des symptômes aspécifiques, pneumothorax révélateur dans un peu moins souvent que dans les autres maladies kystiques, et puis des signes fonctionnels de pneumologie, toux, dyspnée, douleur thoracique. C'est la présentation scanographique qui est vraiment caractéristique, avec dans la phase inflammatoire le scanner que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en haut, les nodules pleins, troués, kystes à paroi épaisse ou fine. Les kystes sont souvent irréguliers, décrits en carte de géographie, et ils sont vraiment prédominants dans les régions supérieures ou moyennes, liées au tabac, avec une épargne assez forte des bases. Donc ça, c'est la phase inflammatoire, mais malheureusement, parfois, on voit le patient au stade fixé, destructeur, avec des kystes irréguliers à paroi fine, l'aspect de poumon en dentelle, et là, c'est plus difficile d'évoquer le diagnostic. On peut avoir d'autres lésions élémentaires liées au tabac, l'emphysème et la bronchiolite du fumeur, par exemple. Donc ça, c'est une autre patiente vue récemment. Donc vous voyez, là, c'est vraiment un scanner typique d'histiocytose, avec vraiment la triade. On a un peu moins de nodules, mais quand même les nodules, les kystes à paroi épaisse, fine, et puis vous voyez ces formes vraiment irrégulières, donc ça n'a vraiment rien à voir avec une lame par exemple, et parfois un peu confluent, et l'épargne totale des bases, c'est vraiment le même patient dont je vous montre le scanner là. Une autre patiente, là avec plus de nodules, voilà, et puis toujours la prédominance dans les régions supérieures. Hop. Là, une patiente, alors c'est son dernier scanner, donc on est plus à la phase fixée, mais c'est aussi une histiocytose prouvée. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire la distinction avec un emphysème simple. Alors là, c'est un patient historique du service, que je connais moi depuis que je suis externe. Une histiocytose diagnostiquée à l'âge de 15 ans, il a commencé de fumer à l'âge de 8 ans, avec voilà, une lyse de la voûte crânienne très importante, très impressionnante, et l'aspect classique de poumon en dentelle. Donc, qui témoigne d'une histiocytose qui est irréversible. Là, un exemple intéressant, c'était une patiente vue en 2015, grosse tabagique, avec quelques lésions nodulaires. Donc, on lui avait proposé tout un bilan qu'elle avait refusé. Elle est partie au Canada. Elle est revenue avec cette forme, là, beaucoup plus évocatrice. Et elle, donc, on a prouvé le diagnostic et mutation BRAF également. Et là, vous voyez, après seulement 8 mois d'arrêt du tabac, une nette amélioration des lésions. Et là, c'est la dernière patiente en date, enfin une des dernières, révélation par un coma hypercapnique sur des pneumothorax bilatéraux. Elle a fait 2 passages en réa pour coma. Une jeune patiente de 22 ans, tabagisme aussi. Et vous voyez là, le diagnostic, il est beaucoup plus difficile. Hein. Alors, comme elle a eu une chirurgie pleurale, il y a eu un prélèvement pulmonaire. Ce qui pouvait nous orienter, c'est probablement la grande taille des lésions kystiques, leur caractère irrégulier, et puis quand même la distribution prédominante dans les sommets. Mais c'est vrai que là, la présentation était quand même beaucoup moins caractéristique. Au plan fonctionnel, eh bien voilà, TVO selon l'importance de l'atteinte, distension, diminution de la DLCO. Là, je vous montre que des scanners épouvantables. En fait, on a plein de cas de découvertes fortuites avec juste quelques lésions. Le lavage retrouve une alvéolite macrophagique en rapport avec le tabac. On peut retrouver un taux de cellules exprimant le CD1A supérieur à 5%. C'est peu sensible, assez spécifique, mais ça ne suffit pas du tout pour le diagnostic, qui est histologique. Les biopsies transbronchiques sont rentables dans 30% des cas. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour la lame aussi, hein, en cas d'histologie, les biopsies transbronchiques dans les recommandations sont positionnées avant la biopsie pulmonaire chirurgicale, malgré le risque de pneumothorax, ou la biopsie chirurgicale à l'occasion d'une symphyse. On retrouvera des cellules qui expriment le CD1 et la langérine, et donc importance de la biologie moléculaire. On peut, sur un LBA riche en CD1A, faire des culots de centrifugation et faire de la biomole dessus. C'est ce qu'on a fait là pour le dernier, un récent patient. La place de la TEP, donc elle est recommandée dans les recommandations internationales, de la voûte crânienne jusqu'aux orteils. Elle est utile pour le bilan d'extension. Voilà, ça ne va pas être utile pour le diagnostic véritablement, sauf si on a des localisations très évocatrices. Je pense que pour les atteintes pulmonaires pures avec quelques lésions kystiques, c'est assez peu utile. Mais dans les formes profuses, c'est très utile pour le bilan initial et puis parfois dans les formes multisystémiques, bien sûr, pour le suivi sous traitement. Donc quel traitement justement ? Le traitement, c'est le sevrage tabagique, voilà, qui est fondamental dans la phase inflammatoire. Ça permet de guérir les patients. Donc là, c'est un patient, donc le patient initial, là, vous savez, le jeune toxicomane, 4 mois hein, uniquement de délai entre les 2 scanners. Vous voyez un scanner quasi normalisé. Donc moi, je montre ça aux patients à la consultation. J'ai une diapo avec. Un PowerPoint avec quelques diapos, je leur montre ça, je leur dis, vous arrêtez de fumer, vous êtes guéri, donc c'est quand même, ça les fait bien réfléchir. Si ça ne s'améliore pas, on remet une couche sur le sevrage tabagique. Si le patient n'est pas trop grave, on n'est pas dans l'urgence, on peut attendre. Généralement, ils sont souvent quand même pas trop graves. Si ils sont vraiment graves, que la forme est profuse, alors je parle des formes pulmonaires, hein, le traitement systémique de première intention, c'est la cladribine, donc de la chimiothérapie. C'est validé sur des séries de cas hein, avec assez peu de patients, mais c'est le traitement de première intention. C'est très immunosuppresseur comme molécule et c'est toujours à valider avec un centre expert. Hein. On ne fait pas de cladribine comme ça dans son coin. Même nous, on valide toujours ça avec Saint-Louis, qui est le centre de référence des histiocytoses. Et si le patient est contre-indiqué du fait de l'immunosuppression importante induite ou si la cladribine est inefficace, d'autant plus s'il a une mutation de la voie RAS-RAF-MEK-ERCL, eh bien on peut proposer un inhibiteur de la voie en première intention. Et c'est en fait ce qu'on fait là quand même sur les derniers cas qui ont été à traiter parce que c'est quand même beaucoup mieux toléré. Les données d'efficacité, elles ne sont pas majeures. Hein. Vous voyez, il y a assez peu de patients. Mais sur les beaux waterfall plots, là, on a quand même une réduction des lésions en scanner qui est assez impressionnante, aussi bien avec le vémurafenib que le dabrafenib, donc des anti-BRAF. Et on a les mêmes choses avec les anti-MEC. Et puis une tolérance qui est quand même, ça se passe relativement bien. Et puis, le patient est au stade d'insuffisance respiratoire, il faudra bien entendu penser à la transplantation pulmonaire. Sur une très récente publication là, des collègues de Saint-Louis, justement, donc voici une série pulmonaire. C'est important parce que, comme je vous disais, dans les recommandations, ils sont très invasifs dans les explorations et les traitements, mais ce sont des séries multisystémiques d'hématologues. Donc là, sur une série pulmonaire, eh bien, 206 patients âgés de 39 ans, que des fumeurs, hein, beaucoup d'histiocytoses isolées, Eh bien, le tableau était très rassurant par rapport aux anciennes données qu'on avait. Donc, ce qui est important de regarder, c'est que seulement 4 patients avec une atteinte extra-respiratoire au diagnostic, 8% seulement de traitement systémique, donc la plupart des patients relèvent uniquement du sevrage tabagique, et seulement une transplantation. Et donc, on a des données de survie à 5 et 10 ans qui sont très bonnes, 94 et 93%. Les causes de décès, principalement des cancers bronchiques, hein, c'est la population qui fait des cancers. Donc attention, insuffisance respiratoire et infection. Et puis, oula, oulala, j'ai plus le droit de parler, c'est pour ça. Je ne sais pas ce qui. J'ai... Ah, est-ce qu'on peut reprendre là où on était? Oui, donc ce qui est très important par rapport à ce qu'on pensait auparavant, il y avait dans les papiers notés jusqu'à 90% d'hypertension pulmonaire chez les patients atteints d'histiocytose, donc groupe 5, là, que Cécile nous a montré tout à l'heure. Et en fait, dans la série de Saint-Louis, uniquement 5% d'hypertension pulmonaire et uniquement 5% d'insuffisance respiratoire. Donc des chiffres beaucoup plus rassurants qui correspondent à ce qu'on voit. Hein. Comme je vous disais, les cas que je vous montre, là, c'est vraiment des patients très graves. On va y arriver. J'ai presque fini, hein, je vous rassure. Voilà. Et puis, donc, vraiment, l'attention à porter, c'est sur le cancer. Hop. Les autres raretés kystiques, juste deux diapositives très rapides. La pneumopathie interstitielle lymphoïde, parce que ce n'est pas si rare que ça, qui correspond à une infiltration pulmonaire diffuse par du tissu lymphoïde. Elle est très rarement idiopathique, donc ce sont généralement les collègues internistes qui nous envoient les patients qui ont déjà un diagnostic de connectivite portée avec des kystes. Donc c'est très souvent associé au gougerot, au lupus, à la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous avez hein, toutes les maladies qui peuvent donner des piles. Donc le diagnostic est assez facile. Le lavage retrouve souvent une alvéolie de lymphocytaire. Les kystes, bon, ils sont pas, il n'y a pas de caractéristiques particulières, ils sont quand même souvent arrondis. On a souvent des lésions élémentaires associées. Alors il y a un peu des continuums, hein, amylose, pile, voilà. Donc on peut avoir des nodules pleins, des nodules envers dépolis. Et puis surtout, vous savez, gougerot, pile, attention aux lymphomes. Donc il faudra, en cas de nodule gros ou de condensation, faire un prélèvement histologique pour s'assurer qu'il n'y a pas de lymphome. Et juste une diapositive très rapide sur la maladie à dépôt de chaîne légère, donc que je m'évertue à chercher, mais j'en ai jamais trouvé jusqu'à présent. Pourtant, on en parle beaucoup en ce moment. Elle est excessivement rare. La maladie à dépôt de chaîne légère pulmonaire, il s'agit de la prolifération d'un clone pulmonaire. Donc, ce n'est pas localisation pulmonaire de la maladie hémato-générale. Hein, c'est vraiment prolifération dans le poumon. Au plan diagnostique, on trouvera des dépôts de chaîne légère en histologie, rouge Congo négatif. Par contre, une immunofluorescence positive pour les chaînes légères, kappa. Donc, il faut pour ça du tissu congelé. Et dans une récente série la nationale française de 31 cas par an, donc surtout des femmes, 50 ans, dans le sang, une IgM monoclonale. Donc, il faut faire une électrophorèse, une immunofixation, rechercher les chaînes sériques légères. Le bilan d'extension est souvent négatif. Et surtout, le scanner est très caractéristique parce qu'on a cette association de kystes et de DDB kystiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment très évocateur de cette pathologie, DDB kystique et kystes. Les traitements hémato sont assez peu efficaces. Les patients vont très largement bénéficier d'une transplantation pulmonaire. Donc la liste n'est pas finie, mais bon, je vais vous épargner tout ça. Il y a pas mal de revues récentes hein, sur les maladies kystiques. En pratique, les messages à retenir, c'est que première étape, il faut reconnaître les kystes. Ce n'est pas si facile, donc ne pas hésiter à en discuter avec votre radiologue. L'importance de la clinique, je trouve ça tellement jouissif en fait, de faire un diagnostic en consultation. Enfin, c'est quand même pas si fréquent, mais avec ces maladies, on peut faire des diagnostics en consultation rien que sur la clinique. L'interrogatoire des antécédents familiaux et personnels, et puis les signes extrathoraciques, l'analyse du scanner, donc elle est vraiment fondamentale, et vous voyez que globalement, les présentations sont quand même assez différentes. En biologie, quelques éléments qui peuvent nous aider, VEGFD, la fibroscopie qui voilà, peut être rentable quand même avec le CD1A, les biopsies bronchiques et transbronchiques, et puis les analyses génétiques. Avant de faire une biopsie pulmonaire chirurgicale pour une maladie kystique, je pense qu'il faut faire appel à un ami. Donc, on est assez disponible, hein, si besoin, pour les collègues de la région, Omnidoc ou autrement. Et puis, il y a également une RCP sur les maladies kystiques, une fois par mois, coordonnée par Vincent Cotin de Lyon. Je vous remercie pour votre attention.
J'avais une petite pensée pour Monsieur de Laval en t'écoutant, parce
Oui.
qu'il aurait été content de t'écouter, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Il y a la place pour une question. Oui.
Ah oui.
Moi, j'ai une question, je ne comprends pas trop la physiopathe de l'histocytose X, parce que, en fait, on voit que c'est hyper lié au tabagisme.
Oui.
Il y a des mutations BRAF. On arrête le tabagisme, ça régresse. C'est-à-dire que la mutation BRAF, elle a disparu ou elle a été induite par le tabac.
Par le tabac. Ouais, on ne sait pas, parce qu'il y a tellement de variétés de présentations entre les formes multisystémiques de l'enfant, les formes induites par le tabac. Oui, c'est assez mystérieux. Mais effectivement, le tabac est sans doute un élément déclencheur sur un terrain un peu...
Sur les formes localisées.
Les formes, c'est ça. Ouais. Et uniquement pulmonaire. Hein. Le tabac va
Écoute, merci beaucoup.
De rien.